Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Nous sommes en direct. Ça faisait très 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 longtemps que nous n'étions pas en direct pour cet actuel et lui. Et ça y est, c'est reparti aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie, bonjour
Coucou.
Aurélie.
Bonjour à tous.
Bonjour Ludovic hein, qui vient
de passer.
Voilà.
Voler les tucs, c'est on peut ça. Le dire.
Il a volé les tucs. Bien, alors au sommaire aujourd'hui, on va commencer avec Anne-Marie qui va nous parler de quoi ?
Alors je vais vous faire une chronique musicale, je vais vous parler de deux albums qui sont sortis récemment.
Voilà. Super. Laisse planer.
Ça nous change.
Oui.
Ça, on parle pas souvent musique. Et toi Guillaume, tu vas nous parler de quoi ?
Alors moi je vais vous parler, je sais même plus tiens.
Mais si, reviens à tes premières amours.
Je vais vous parler de télé et donc d'Ice.
Ça faisait longtemps aussi.
Ça faisait longtemps aussi, donc d'Ice Show, cette nouvelle émission d'M6.
Qui met le feu sur la glace.
C'est ça.
Ça, j'adore cette expression. Et toi Aurélie, pour conclure, tu vas nous parler de quoi ?
Eh bien moi, je vais vous parler ciné.
D'accord. Donc pareil, un peu de suspense ?
Oh oui, non, je peux vous le dire. Je vais vous parler de Guillaume. Et... Non, attends, comment c'est ? Les garçons et Guillaume à table.
Parce que c'est sûr que tu l'as vu ?
Je me trompe tout le temps dans l'ordre. Je dis Guillaume et les garçons, mais en fait, non,
c'est
les
pas
garçons
Guillaume.
Et Guillaume à table.
Mais c'est pas
non.
Guillaume.
Non, non,
non. C'est Guillaume Gallienne, je crois.
Voilà.
Bien, Anne-Marie, on attaque donc avec toi pour cette chronique musicale. Et donc, on te laisse la parole.
Oui. Alors, je vous propose de vous faire découvrir deux nouveaux albums d'artistes complètement à contre-courant. Alors, on va commencer par une petite devinette. Qui chante cette chanson ?
On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant.
Alors Aurélie ?
Je sais.
Dis-nous.
C'est Vincent Delerme.
Et oui, donc...
Fanny Ardant. Et moi.
Tu as bien reconnu cette chanson très mélodieuse. Hein. Vincent Delerme qui chante donc effectivement Fanny Ardant et moi. Aujourd'hui, il revient avec son cinquième album intitulé Les Amants Parallèles. Alors, autre devinette, qui chante cette chanson datant quand même de 1988.
Nous étions jeunes, large dépôt, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again.
On the road again.
Wow, on est fort hein, quand même. Oui. Tu nous as vu les classiques de chacun.
Voilà, ça donc va, Bernard Lavilliers.
Exactement, donc cette voix chaude et puissante appartient à Bernard Lavilliers qui revient lui aussi sur le devant de la scène avec son dernier album Baronne Samedi, son 20e opus quand même en 45 ans de carrière. Donc vous le constatez, je vais évoquer l'univers de deux artistes atypiques qui n'ont pas fait du business leur priorité. Pas de disques commerciaux finalement, mais des disques du cœur qui véhiculent des valeurs.
Bon alors, on commence avec Vincent Delerme.
Oui, alors un opus en totale symbiose avec le compositeur, hein, parolier et chanteur Vincent Delerme, âgé de 37 ans. Délicat, tu l'as dit, discret, sobre, touchant, mais sans tomber dans le gnangnan. Vincent Delerme est un artiste joueur de mots dont l'humour pince sans rire, fait sourire. Un véritable poète qui dessine un univers, son univers, mais aussi notre univers, composé de petits riens. Un quotidien banal, mais c'est ça qui est génial, c'est que Vincent Delerme, avec quelques mots posés sur un piano, et seulement un piano dans cet album, enfin plus précisément deux pianos, évoque des bribes.
Et plein d'autres accessoires.
Oui, mais c'est vrai qu'il a vraiment axé sur le piano cette fois-ci et pas sur les violons. Voilà. Évoque donc dans cet album, il évoque des bribes de notre vie, et pas toujours heureuse finalement.
Et alors c'est une continuité ou une rupture avec les autres albums ?
Alors, Les Amants parallèles, un titre de l'album, raconte le coup de cœur d'un homme et d'une femme, l'un après l'autre. Alors, c'est un ping-pong de voix douces, très émouvant d'ailleurs, avec celle de Vincent Delerme, donc évidemment, celle de Rosemary Stanley et Virginie Aussiètre. Mais finalement, pour ce passionné de cinéma, on retrouve dans cet opus des clins d'œil au 7e art. Alors, 13 chansons composent cet album. C'est un petit peu comme 13 courts-métrages pardon, qui pourraient composer une seule chanson d'amour. Les journalistes lui ont souvent reproché son habitude à citer des noms d'acteurs hein, tels que Jean-Louis Trintignant ou Fanny Ardant. Cette dernière lui a donc inspiré la chanson que nous avons écoutée en introduction. Il évoque hein, d'ailleurs cette relation dans une interview accordée récemment au journal Libération. Alors voilà, la journaliste lui dit « Mais finalement, vous êtes très cinéma ». Et lui, il répond « J'ai toujours beaucoup tourné autour ». À mes débuts, j'étais très influencée par la nouvelle vague, les situations amoureuses, Jean-Pierre Léo dans les Truffauts. À 25 ans, je n'avais pas vécu d'histoire très longue et je ne voulais pas faire semblant d'avoir une vie qui n'était pas la mienne. Maintenant, c'est différent, je vais un peu moins au cinéma. J'ai de plus en plus de mal à croire des acteurs que j'ai déjà vus jouer 100 fois. Alors, je ne vois quasiment plus que des films dans lesquels je ne connais personne. Et puis, j'ai sacrément fait attention. Dans ce disque, il n'y a que 3 noms propres. Mais je me suis fait un garrot pour en arriver là, alors que c'est ma pente naturelle. Malgré tous mes efforts, Mia Farrow, c'était un peu obligatoire. À un moment de l'histoire d'amour que je raconte, le personnage féminin attend un enfant. Je ne voulais pas utiliser des mots comme grossesse, enceinte, ventre arrondi. Et parmi toutes mes images mentales, je n'ai pas trouvé mieux que Mia Farrow dans Rosemary Baby. C'est quand même mieux que Véronique Courgeot, non ?
Oui, effectivement.
On reconnaît bien son univers un peu.
Oui, et puis toujours cet humour quand même, ouais. Vincent Delerme. Mais on sent quand même que Vincent Delerme a changé dans cet album. Il a mûri. Certains disent même que le nouveau Vincent Delerme est arrivé. Cheveux grisonnants, devenu tellement séduisant. L'artiste se laisse aimer, comme dans Bruit des nuits d'été. Alors là, je cite, hein, il chante « Et tu m'embrasses à présent et tu défais tes vêtements. Les choses de la vie d'avant ont disparu dans le vent. » Du baiser, on passe à l'acte sexuel, puisque dans la chanson suivante, intitulée « Robe », il chante « Les mois qui suivirent, il alla chez elle, dans un studio au-dessus du boulevard. Le matelas a même le sol, tout de suite à gauche, quand on ouvrait la porte. Il suffisait de faire un pas, et on était sur le lit, jusqu'à arriver à la chanson. Ces deux-là, évoquant donc le début de grossesse de l'amante, son ventre à elle ressemblait à présent à celui de Mia Farrow. » Donc vous voyez, c'est vraiment 13 chansons, comme je vous disais, 13 courts-métrages, qui reprennent du début à la fin une histoire d'amour.
Oui, c'est un album concept qui
exactement. Ce qu'on ne retrouvait pas dans ses autres albums. Où en plus, les univers étaient souvent très différents. Donc, dans ce tourbillon de la vie, Vincent Delerme parle de paternité et des conséquences, pas toujours synonymes de bonheur. Et là, je le cite quand il dit « J'évoque comment l'arrivée d'un enfant modifie les choses. Les magazines parlent de quelque chose de formidable, mais c'est aussi la fin de quelque chose pour les deux membres du couple. » Bref, avec cet album, Vincent Delerme fait un saut du grand plongeoir, titre d'une autre chanson. Il évoque ce sentiment de lâcher prise hein, dans une interview accordée au site legrandrouen.com. Grandrouen.com, parce qu'en plus,
il est normand.
Voilà, il est né à Évreux dans l'Eure. J'ai vraiment fait ce disque comme un témoignage sur l'amour. Souvent, on vous demande c'est quoi votre vie sur la vie, sur l'amour. Et c'est très difficile de répondre parce que ce sont des sujets complexes. Même si on a évidemment une opinion hein, sur ces choses, notamment sur l'amour, il est cependant difficile de réduire en quelques mots ce qu'est l'amour. Cet album est ainsi un vrai soulagement pour moi. J'ai pris de l'espace pour répondre à cette interrogation. L'amour, c'est vrai, c'est le moment où on se jette dans le vide. Être en couple peut être sécurisant ou périlleux. J'ai voulu que toutes ces choses apparaissent en filigrane dans l'album.
Donc Vincent Delerme a beaucoup mué depuis son dernier album. Et il a mis du temps aussi pour le composer.
Alors, Jean d'Ormesson a toujours fait l'éloge de la lenteur. Il a notamment déclaré « Il faut prendre le temps de la lenteur ». Je trouve que cette phrase magnifique, pleine de sens, correspond parfaitement au caractère de Vincent Delerme, qui prend le temps de vivre, le temps d'aimer, le temps d'écrire et le temps de chanter. Alors, il est évident que l'artiste n'est pas un chanteur à voix, ne lui demandez pas de crier « que je t'aime ». Il serait plutôt à l'aise sur le message personnel de Françoise Hardy. Il est vrai aussi que Vincent Delerme serait bien incapable de poser sa voix sur des tempos rapides, mais qu'importe. Écouter Vincent Delerme, c'est prendre le temps de respirer. Alors oui, il a mis 5 ans précisément pour écrire cet album, mais qu'il est bon de prendre le temps de plonger dans l'album des Amants parallèles.
Il a fait d'autres choses aussi entre-temps, hein, puisqu'il a fait une espèce de théâtre musical. Bon, c'était un peu compliqué, mais il a pas passé 5 ans non plus pour composer, justement.
Oui, mais le fait qu'il ait d'autres activités voilà. veut pas dire que ça participe pas de la création artistique en étant fait. Des pauses et en...
Non, non, mais, c'est, mais voilà, justement...
On
enfin,
dit pas qu'il fait rien.
Non, mais voilà, c'est ça. J'ai pas dit que c'était un glandeur, quand même.
Non, non,
voilà.
Mais
j'ai juste dit qu'il a pris le temps.
Voilà. Non, mais on retrouve ce que tu dis, justement. Enfin, mais c'est ça qui est intéressant. C'est la façon aussi, justement, ce théâtre musical qu'il a construit ces dernières années. On le retrouve dans cette mise en scène, dans cette histoire, finalement, que tu traites comme du court-métrage, mais qu'on pourrait aussi imaginer comme des actes d'une pièce de théâtre. Enfin voilà, donc enfin, ce côté acteur aussi.
Plus court-métrage parce
voilà.
qu'effectivement il aime tellement le cinéma, mais on aurait pu prendre un autre synonyme.
C'est ce côté aussi acteur qui se retrouve finalement.
D'ailleurs, je crois que tu nous disais en off que tu aimais beaucoup Vincent Delerme.
Et oui, tout à fait. Je l'ai vu plusieurs fois en concert et contrairement effectivement quand on écoute ses chansons, on a un peu l'impression que c'est effectivement un déprimé, surtout au début, hein, et que c'était pas forcément quelqu'un de très très sympa, tout ça. En fait, c'est des concerts où on rigole du début à la fin, avec une histoire, avec du lien entre les chansons. Voilà, il y a aussi un magnifique album, je vous en ai déjà passé un extrait, un magnifique album qu'il a fait en live à la Cigale avec des duos assez sympas, vraiment, il y a des perles là-dedans, avec les vrais chanteurs de ces duos. Il y a vraiment des trucs super, il y a avec Renaud, avec Georges Moustaki, avec, enfin voilà, il y a vraiment des choses assez riches dans tout ça. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu plusieurs fois en concert, une fois dans les théâtres romains de Lyon, c'était assez fantastique.
D'accord.
Bon, et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour qu'on se fasse une petite idée ?
Oui, bah alors je vous laisse savourer la chanson « Ils avaient fait les valises dans la nuit ».
Ils avaient fait les valises dans la nuit. Ils n'avaient presque pas dormi. Ils avaient attendu le jour sur l'appartement au Clignancourt. Pour se pencher vers toi comme ça, on part en Espagne, habille-toi, et presque tu aimais ça. Parfois il fallait, c'était nécessaire, s'évanouir, s'enfuir dans les airs, ramasser les poupées par terre et les bracelets, le pull à verre, laisser le poster dans la chambre, tout laisser, l'escalier descendre, et presque tu aimais ça. La voiture était là en bas, la voiture était garée là. Y'a la banquette froide à l'arrière, le tunnel, la sortie d'Anière. Et presque tu aimais ça, sentir comme il tenait à toi. Tenait à toi ces matins-là. Et alors elle se retournait avec ce sourire-là que tu connais. Il parlait puis il te regardait, visage que je ne verrai jamais. Ce matin, 30 ans plus tard alors, que nos deux enfants dorment encore, tu dis le froid, les escaliers, tu dis la peur, les yeux fermés. Tu dis c'est fort le matin.
Bon, super, effectivement, ça va nous donner envie d'écouter cet album. Et tu nous parles également d'un second, celui de Bernard Lavillier, Baron Samedi.
Exactement, alors cet ancien apprenti tourneur sur métaux, boxeur, tour à tour restaurateur et gérant de boîte de nuit, et la voix des sans-voix, c'est le porte-drapeau finalement des opprimés. On retient principalement de ses succès salsa, la reprise des mains d'or, Angola, mélodie, tempo, harmonie,
oui.
Ou bien encore la chanson la plus emblématique, celle qu'on a écoutée tout à l'heure, On the World Again. Alors Bernard Lavillier est avant tout un chanteur engagé, s'inspirant de ses nombreux voyages, Brésil, Jamaïque, États-Unis, Sénégal, Congo. Et pour ce dernier album, il n'y a pas d'exception. Un an après le tremblement de terre qui a ravagé l'île d'Haïti en janvier 2010, Lavillier est parti à Port-au-Prince pour soutenir ses amis haïtiens, des artistes. C'est le point de départ de la création de ce nouvel album, Baron Samedi. Alors le site de RTL nous donne quelques explications concernant les influences haïtiennes qui transpirent dans cet opus. Que peut l'art face à la misère noire ? Extrait de Tête chargée. expression qui en Haïti signifie être inspiré. Et c'est donc le titre d'une de ses nouvelles chansons. Et d'ailleurs, je vais vous lire un tout petit passage. La déchirure extrême qu'on déteste et qu'on aime, l'art. La déchirure suprême qui n'est jamais la même, l'art. Que peut l'art contre la misère noire, la musique contre la solitude, les artistes contre les habitudes ? Que peut l'art ? Que peut l'art ? Voilà, c'est une belle chanson qui effectivement pose la question de quelle est la place de l'art aussi dans le monde, quoi. Le nom énigmatique de l'album Baron Samedi vient également de la culture haïtienne, comme le raconte le musicien. Baron Samedi, ça fait partie de ses personnages, de ses esprits, souvent matérialisés par la peinture. Alors, il s'occupe du cimetière, et si tu veux bien passer ta mort, t'as intérêt à être bien avec lui. En clair, Baron Samedi, dans le culte vaudou, c'est le nom du puissant esprit de la mort et de la résurrection.
Oui, donc Bernard Lavilliers n'a pas pris une ride.
Ah oui, on regardait la couverture de l'album tout à l'heure. Wouh,
c'est vrai qu'il est très sexy quand même.
Oh là là.
Ouais, c'était même pire que ça tout à l'heure. Voilà.
67 ans, tu nous as dit wouh.
Ouais, tu vois, il a quand même 67 ans, mais je trouve que voilà, plus les années passent,
l'adopte.
Plus il est sexy, mais c'est comme le vin.
Tombé. Hein.
Ouais. Et il se bonifie avec l'âge. Donc il y a 67 ans, ce baroudeur n'a perdu ni de son charme, ni de sa belle voix chaude, pleine de vérité, trempé dans un tempérament de feu. Bernard Lavilliers aime peindre le monde bouleversé dans lequel nous vivons. Ce rebelle au grand cœur, certes souvent utopiste, chante tout de même l'espoir, la vie, comme dans une chanson donc de son dernier album, hein, évidemment. Et ça s'appelle « Vivre encore ». Alors, voilà, il nous dit « Quand tu n'entends plus ton cœur trop lourd, battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure, faut vivre encore ». Vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici, la bataille n'est jamais finie, quel vainqueur.
C'est la chanson qui passe en ce moment derrière ta voix.
Alors effectivement, Bernard Lavilliers, c'est ce qu'on appelle un artiste engagé, avec lui, politique plus chanson, c'est l'équation qui marche.
C'est l'équation même parfaite, Aurélien, pour cet artiste. Les chansons de cet album hein, font et toujours écho à sa vie, à sa jeunesse, à ses combats. Bernard Lavilliers, à 17 ans, adhère au Parti communiste. Il commence sa carrière de chanteur dans les usines occupées. À la question du journaliste de l'émission Alcaline, diffusée récemment sur France 2, je ne sais pas si vous l'aviez vue, elle était très intéressante cette émission. Donc le journaliste lui avait posé cette question, quelle est la chanson qui vous fait toujours pleurer ? Eh bien Bernard Lavilliers répond tac au tac, eh bien, c'est l'affiche rouge de Léo Ferré, un poème d'Aragon hein, sur des résistants tués en 1944, considérés comme des terroristes par le gouvernement nazi. Dernièrement, hein, lors de l'élection présidentielle, Lavilliers avait aussi soutenu Jean-Luc Mélenchon, hein, candidat du Front de Gauche. Donc Bernard Lavilliers s'inspire du monde, hein, des souffrances, des injustices, hein, finalement, pour écrire et chanter. Véritable témoin du présent, il s'est confié dernièrement à un journaliste de l'Humanité concernant le climat ambiant actuel en France. Il a notamment dit, hein, je cite, « Je sens qu'il y a un repli terrible. Forcément, il faut trouver un bouc émissaire. Donc, allons vers le plus simple. » Je chante par exemple « Scorpion », une chanson que nous écouterons dans quelques minutes qui passe sur les ondes. Poème, donc « Scorpion », un poème de Nazım Hikmet qu'il avait intitulé « La plus drôle des créatures ». Il a fait 15 ans de prison en Turquie parce qu'il était communiste. J'imagine que c'est un texte de résistance dans lequel il peut dire à son meilleur ami « Tu es comme le scorpion, mon frère, pendant que j'étais en train de me bagarrer contre les nazis. Tu es comme le moineau, mon frère, dans tes menues inquiétudes. » Il y a quelque chose de politique et de violent dans ce texte que j'aime. C'est le moment de le chanter. Le fait de ne pas bouger une oreille est pire que l'assassinat parfois. Je me dis que n'importe qui peut assez facilement prendre une attitude de meute et qu'on pourrait le voir dans pas longtemps. Cela reflète une certaine paresse intellectuelle de la part de nos concitoyens. Je ne parle pas de ceux qui ont une conscience politique, mais de ceux qui flottent un peu, la masse, comme dirait Jean Brodillard, hein, philosophe français, à l'ombre des majorités silencieuses. L'histoire de Christiane Taubira, ça va tellement loin. Il y a encore 10 ans, on n'aurait pas pu dire un truc pareil. Fin de citation. Alors à l'époque, hein, celui qui avait confié au président de la République, François Mitterrand, « Je chante des causes perdues sur des musiques tropicales », continue donc en 2013 à peindre le monde tel qu'il est, sur des airs urbains. Un album très réussi à réécouter, voilà, sans modération.
Et donc, on écoute cette chanson, fameuse donc, chanson, voilà, on écoute Scorpion, dont Scorpion. Tu viens de nous parler.
Exactement.
« le scorpion, mon frère. Tu es comme le scorpion. Dans une nuit d'épouvante, comme le moineau, mon frère. Tu es comme le moineau. Dans tes menues inquiétudes, comme l'amour, mon frère. Tu es comme l'amour. Enfermé et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq. Terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq. Tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère, quand le bourreau habillé de ta peau. Quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau. Tu vas à l'abattoir, mon frère, en courant presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme. Plus drôle que le poisson qui vit dans la mer, sans savoir la mer, sans savoir la mer. S'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang. Mais terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq. Tu es des millions. Scorpion, dans une nuit d'épouvante, irai jusqu'à dire que c'est ta faute, mon frère, que c'est ta faute, non. Mais tu y es pour beaucoup, mon frère. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang. Mais terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq. Tu es des millions.
Elle
et lui.
Bon, eh bien, on se retrouve pour cette deuxième partie d'Actuel et lui du 5 décembre. On vous souhaite un bon appétit, puisque vous êtes sans doute à table. Et bah, nous, on va parler...
Rediffusion, ça va être...
Oui, bah, c'est pas grave. Eh bien, on s'en fiche.
Donc, rediffusion, d'ailleurs, le mardi à 18h11. Voilà.
Et le jeudi prochain, pareil, à la même heure. Donc là, même si on sera plus le 5... Eh bien, les gens, ils seront contents d'entendre Bon Appétit. Voilà. Et moi, je voudrais bien entendre parler de télé, Guillaume. Tu vas...
Surtout toi, Aurélie.
Voilà, tu vas accentuer ma culture télé en me parlant de iShow, dont je n'avais jamais entendu parler avant aujourd'hui.
Et oui, je vais vous parler effectivement donc de iShow, la nouvelle émission de télé-réalité, si on peut dire, avec des people sur M6. C'est le mercredi soir, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas écrit, donc que je n'avais pas écrit. trouvé mon sujet de chronique avant hier soir. Hein, mais bon, j'ai quand même écrit la chronique ce matin. Donc voilà.
Mais t'as le temps de réfléchir comme ça.
Non, mais pour tout vous dire, j'avais prévu au départ de parler des amants parallèles.
Tu voulais parler aussi de Vincent Delerme.
Voilà. Et donc, de Vincent Delerme. Donc voilà. Comme Anne-Marie avait pris la priorité, je lui ai laissé la place.
Mais tu es trop bon.
Mais voilà, voilà.
Enfin, elle l'a juste dit, quoi. Elle a juste été plus rapide.
Bref, peut-être que les auditeurs s'en fichent.
Que, du coup, Ice Show.
Et donc, Ice Show.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une forme de mélange entre Splash, donc le grand plongeon, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, et The Voice, hein, puisqu'il y a des coachs, on va y revenir. Mais en tous les cas, c'est un show très bien produit, même si le direct a toujours quelques aléas. C'était notamment le cas dans la première émission, il y avait quelques petits bugs, notamment sur les panneaux de résultats des scores, mais bon, on n'en parlera pas, c'est vraiment du détail.
Mais si je peux me permettre, c'est plutôt quand même un copier-coller de Danse avec les Stars. C'est exactement le même principe.
C'est un peu
ce
ça,
sont quand
voilà.
même des stars qui dansent. C'est Alors là, c'est pas sur le plancher des vaches, c'est
Tout
sur des
fait.
Patins. Mais voilà, enfin, noter...
Voilà, mais effectivement...
Ouais, en même temps, du coup, passer du sol à la glace...
Oui,
mais c'est vraiment le copier-coller. Je veux dire, voilà, par rapport à Splash et The Voice, moi, j'aurais plutôt dit Danse avec les Stars.
Oui, sauf que
t'as
pas la logique des coachs dans... Oui, enfin bon, voilà, c'est un peu un mélange des trois,
on
va dire.
Oui, voilà, allez.
Mais par contre, c'est une création française de Studio 89, qui est une filiale du groupe M6. Donc, c'est de l'inédit, ça n'a jamais été créé, parce que souvent, The Voice, Danse avec les Stars,
c'est
a été
des adaptations. Et on sait si on va vendre d'ailleurs ce concept.
Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais
je pense. Qu'il fasse ses preuves, peut-être.
Voilà, et puis c'est un concept, on en parlera tout à l'heure, qui coûte très cher, donc il faut aussi que des télés puissent l'acheter aussi.
Bon, alors Aurélie, qui n'a pas pu regarder la télévision, puisqu'elle n'en a pas.
Je ne sais pas de quoi on parle.
Voilà. Est-ce que tu peux expliquer à Aurélie quel est justement ce principe ?
Alors, le principe, il est assez simple, même si on n'a pas forcément toute la mécanique du jeu encore qui est dévoilée. Parce que, bon, là, il y a des gens qui ont été éliminés, mais on ne sait pas comment les équipes vont continuer à vivre au-delà de ça. Donc, on se pose un peu des questions, mais on verra. Mais bon, le principe du programme repose sur quatre grands noms du patinage artistique français. Philippe Candeloro, Surya Bonelli, Gwendal Pesra et Sarah Abitbol, qui s'affrontent dans une compétition unique et télévisuelle. Et c'est la première fois aussi qu'ils s'affrontent sur la glace. Parce que, ils se sont enchaînés sur la glace, soit dans des disciplines différentes.
Oui, ils n'ont jamais
faisaient de la danse sur glace, d'autres du patinage artistique, qui sont des différentes.
Puis finalement, quand on regarde là au niveau des coachs, justement, sur Abon Ali, je pense que c'est la plus ancienne quelque part, non ?
Tout à fait. Alors, chacun.
Les autres, c'est des garçons, c'est un peu logique.
Non,
il y a Sarah aussi.
Il y a Sarah Abitbol.
Ah oui, d'accord. Parce que j'allais dire, je comprends bien pourquoi Surya Bonelli et Philippe Candeloro n'ont pas été en compétition, moi.
Mais oui, sauf que si, parce qu'ils auraient très bien pu, s'ils faisaient de la danse sur glace, danser ensemble, comme Gwendal Pesra le faisait avec Marina Anissina. Alors, chacun étant à la tête du. Donc, chacun des coachs est à la tête d'une équipe composée de deux célébrités et d'un pool de patineurs professionnels, dont notamment les maris ou femmes des coachs qui interviennent et qui sont de grands conseils, a priori, dans le travail de répétition. Et donc, les équipes sont jugées par un jury. Et donc, ils vont devoir réaliser, bien sûr, des prestations sur la glace. Après, les équipes sont jugées par un jury technique et professionnel et par les téléspectateurs. L'émission est animée par Stéphane Rothenberg, le spécialiste de la télé-réalité de M6, hein, Pékin Express, Top Chef, etc. Voilà. Alors.
Justement, donc, ce sont quand même des coachs, tu nous as parlé des coachs tels que Philippe Candeloro ou Surya Bonelli. On revient un petit peu sur leur palmarès, parce que c'est vrai qu'ils ont tous eu quand même des carrières magnifiques pour certains.
On va commencer peut-être par le plus médiatique d'entre eux, hein, Philippe Candeloro, donc patineur artistique français. Il a obtenu les médailles de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer et de 1998 à Nagano. Il a été également vice-champion du monde en 1994. Après, donc, Gwendal Pesra est danseur sur glace, champion du monde en 2001 et champion olympique de danse sur glace avec Marina Anissina donc, en 2002. Et il est vice-président au sport en Rhône-Alpes. Voilà, donc à la région Rhône-Alpes. Sarah Abitbol est patineuse artistique. Son partenaire en couple est Stéphane Bernadis, avec lequel elle patine depuis 1992. Avec ce dernier, elle a remporté une médaille de bronze au championnat du monde 2000 et sont devenus le premier couple français à remporter une médaille au championnat du monde depuis lors, remportée par André Brunet et Pierre Brunet en 1932. Et Surya Bonaly, patineuse artistique également, a un palmarès impressionnant, dont 9 fois championne de France en solo, de 1989 à 1997.
Ah, voilà. Mais c'est vraiment un régal de la revoir, Surya Bonaly. Ouais.
Sachant qu'elle
elle a marqué quand même le patinage artistique français. Et je trouve qu'elle n'a pas eu les honneurs, les médailles qu'elle aurait dû avoir, surtout dans les compétitions internationales. Et voilà, moi, ça, franchement, parce que...
Elle est souvent arrivée deuxième dans les compétitions internationales.
Souvent injuste, hein, c'était quand même très, très injuste.
Oui, c'est souvent son côté gymnaste qui la pénalisait par rapport à la grâce des danseuses.
Alors qu'elle était capable de faire des
exploits physiques, du coup, des doubles, des triples et des quadruples, machin. Ouais. Et du coup, alors, on a vu les patineurs, mais il y a qui d'autre ? Parce qu'il y a des célébrités aussi.
Alors, effectivement, des célébrités, mais sans être un petit peu, sans être irrespectueux pour ces
célébrités. Deuxième choix, tu veux dire.
Pour ces célébrités, c'est un peu du deuxième choix. Mais bon, il fallait quand même des célébrités disponibles pour plus de 2 mois, puisqu'il y a eu 1 mois d'entraînement. Et,
tu m'étonnes, bah oui, parce que moi, j'imagine pas prendre quelqu'un, lui dire « Allez, spectacle sur de glace !»
Mais c'est pareil qu'avec Danse avec les Stars. Hein, oui. C'est pas, il faut qu'il soit quand même... Toutes ces célébrités doivent être très libres.
Il y a quand même un entraînement qui est assez impressionnant sur Ice Show, qui nécessite aussi une condition physique. Voilà, enfin, il n'y a pas Laurent Ournac dans...
Non, c'est ce que j'allais dire. Les filles, faut pas qu'elles pèsent plus de 50 kilos, hein, parce que.
C'est, enfin voilà, il y a quand même besoin aussi d'une condition physique certaine et de pas faire les midinettes, parce que bon, il y en a qui ont très très mal aux pieds et qui sont quand même encore et qui bossent, et c'est quand même assez impressionnant de voir justement l'implication des équipes. Alors, dans l'équipe de Philippe Candeloro, on retrouve Kenza Farah, donc chanteuse, hein, auteur-interprète, voilà, là, sur sa fiche, hein, tout ce qu'on peut trouver, et Richard Virenque, donc ancien coureur cycliste et consultant radio maintenant.
De toute façon, maintenant, il peut être dopé, c'est pas grave, pour ce jeu.
Non, mais il a droit au dopage ou pas ?
Justement,
il est touchant, il est très touchant. Ouais.
Il est très touchant et
qu'il est revenu. Bon bah forcément, bon, quand Guillaume nous a dit qu'il allait préparer cette émission, j'ai quand même voulu la regarder, connaître cette émission. Et effectivement, quand on l'a regardé, donc dans la dernière émission, c'était hier, mais bon après, voilà, si ça passe mardi, ça va plus le faire. Mais bon bref, dans la dernière émission, justement, Richard Virenque qui est revenu sur cette époque justement où on avait dit qu'il était dopé et il était émouvant. Voilà quand
sur
il en a parlé,
c'était formidable de Stromae, c'était assez émouvant.
Aurélie.
Ouais.
Alors après, dans l'équipe...
On va briser la glace avec toi. Hein.
Oui, c'est ça. Dans l'équipe de Gwendal Pesra, on retrouve donc Tatiana Golovin, la joueuse de tennis et consultante sportive, et Merwan Rim, qui est aussi chanteur, auteur-interprète. Voilà, voilà, vous avez les commentaires de d'Anne-Marie. Dans l'équipe de
Surya... Moi, j'ai bien patiné avec lui. Hein.
C'est lui qui est torse nu et donc ça
non,
vient
non,
de regarder.
Pas lui, c'est
ah non,
le...
mince.
On y vient.
Il y a que ça qui t'intéresse, Aurélien.
Non, mais vous m'avez dit qu'il y avait des choses intéressantes à regarder dans cette émission, donc...
C'est intéressant. Enfin.
Donc, dans l'équipe de Surya Bonaly, maintenant, Chloé Morteau, Miss France 2009, mais qui a été donc éliminée hier soir au cours de la deuxième émission, mais qui va revenir, hein, puisque, comme on va le voir, elle reviendra notamment, a priori, dans l'after show, puisque ça a été le cas hier pour la première éliminée qui est revenue. Et puis donc, effectivement, Florent Torres, chanteur, hein, qui est passé dans The Voice, hein, c'est ça de...
Je crois, oui.
Oui, voilà.
Et c'est lui qui était torse nu.
Okay. Et qui avait effectivement tous les arguments possibles pour être torse nu et ne pas être ridicule. Et puis donc, enfin, dans l'équipe de Sarah Beatball, on retrouve Norbert Tarrer, le cuisinier animateur de Top Chef, et puis maintenant de Norbert et Jean, le défi.
Alors, entre lui... Candeloro et Virenque, wouh!
Ah, bah, il y a du niveau.
Ah, bah, alors là,
il fallait voir les réflexions.
Et arrive la dernière.
Voilà, je pense que. Effectivement, tu rajoutes la dernière, là, et je pense que ça devait voler très haut.
La dernière, c'est Clara Morgane.
Oui, alors, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie?
Alors, selon sa fiche, animatrice chanteuse. Voilà.
D'accord.
Mais effectivement, il anime une émission, je crois que c'est sur Énergie 12, et qui est une émission très...
Habillée
pas du tout.
Regardez.
Oui, oui, non, non, non.
Par la jante masculine.
Non, 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 une émission très, très sérieuse.
Oh oui.
Et non, 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 mais vraiment...
sur les calendriers, par rapport, les plus sexy du monde.
Par rapport, juste... Non, non, mais très, très sérieusement, contrairement à ce qu'on...
Surtout sur Énergie 12, on se doute.
Mais oui, ouais. Mais justement, c'est l'exception de Énergie 12.
L'émission appelée d'Énergie 12 par Clara Morgan.
Et donc...
Il essaye de nous faire gober n'importe quoi.
Et donc Clara Morgan, qui a été éliminée à la première émission et qui a fait un show magnifique hier, à la toute fin de l'after show, voilà, qui est revenue. Et c'était effectivement un déchirement assez compliqué pour Sarah Abitbol de se séparer de...
Ah bah c'est surtout un déchirement pour tous les
Norbert
qui regardaient l'émission. Quoi.
Norbert, lui, il se disait « Oh, je vais bien pouvoir briser la glace
!» Non, 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 parce que Norbert était très gêné quand il a commencé à patiner. Justement dans la relation à sa partenaire féminine, parce que il est marié et que il se voyait pas forcément aller.
Hein.
Non, non, mais moi je parle pas de Clara Morgan là, je parle
de Norbert,
de Norbert et oui, de sa danseuse, de la patineuse professionnelle avec qui il travaille. Et il trouvait cette relation au corps de l'autre patineur un peu compliquée. Effectivement, il y a des portées, il y a des parties de danse. Il n'envisageait pas forcément d'avoir ce type de relation avec une femme en dehors de la sienne.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Il est un peu con-con, je ne vais pas être méchante, mais tu sais très bien que c'est du patinage à deux, donc forcément...
Ah non, non, mais c'était juste une...
Non, mais il le sait,
c'était
quoi.
C'était juste une des difficultés qu'il a... Non, non, mais c'était
De toute façon, moi, il m'énerve, alors forcément...
Voilà. Alors, et puis tenir dans ses bras Clara Morgan, ça ne veut pas forcément dire qu'on va briser la glace, justement. On se calme.
Il n'a pas tenu les...
Ça a été réglé comme ça. Ça s'est fait.
Non, parce que les deux candidats ne patinent pas ensemble.
Ah, ne patinent pas ensemble. Ah, voilà.
Ils sont juste...
Non, mais heureusement, parce que...
Ah oui, non, sinon
c'est catastrophique.
Sinon, c'est catastrophique.
Surtout Norbert, je pense que c'est le plus nul, quand même, de tous les candidats.
Je sais pas, Richard Virenque peut-être aussi.
Je suis pas d'accord avec.
Bon, on verra.
Ah, t'as dit qu'elle aimait bien Richard Virenque. T'as bien vu que les critères d'Anne-Marie sont pas toujours totalement objectifs.
L'inconvénient, c'est qu'effectivement, comme Clara Morgan a été éliminée la semaine dernière, Norbert, cette semaine, faisait deux shows. Donc effectivement, ça nécessitait aussi beaucoup plus
de travail.
Enfin, ça pouvait donner un résultat un petit peu moins bon que les autres qui en avaient eu et qui en travaillaient qu'un seul. Voilà.
Oui, bon, on va pas pleurer.
Bon, après, à noter aussi que Marion Bartoli, qui était à l'origine au casting, mais finalement, sur blessure, c'est donc Tatiana Golovin qui la remplace. Mais qui a un petit problème de... Non, je me trompe. Si, c'est elle, qui a un problème de coude, qui est tombé pendant la préparation de l'émission. Et donc, elle a le coude dans une attelle, et c'est relativement risqué, parce que si elle retombe, c'est cassé, et là, c'est opération et grosse fracture.
Heureusement qu'elle ne joue plus au tennis, alors.
Et oui.
Enfin, ça fait longtemps qu'elle ne joue plus au tennis. Hein. Alors, qui juge les performances des célébrités?
Alors, chaque semaine, les participants sont notés par 3 juges professionnels sur la technique et par les téléspectateurs sur l'artistique. L'équipe qui obtient le plus de points, c'est plus sur la notoriété. D'accord. L'équipe qui obtient le plus de points est qualifiée et les autres s'affrontent lors d'une manche éliminatoire. Les téléspectateurs votent et le coach qui a remporté le moins de points devra se séparer de l'une de ces célébrités. Voilà. Donc,
mais du coup, c'est lui qui choisit d'en sacrifier une.
C'est ça.
Oh là là, c'est pervers.
Eh oui, c'est pervers. Et puis,
trop bien.
C'est très dur. Hein. Ça a été très dur pour Sarah Abitbol au départ. Et bon, hier un petit peu moins, mais parce que c'était évident qu'il fallait garder Florent Torres, qui est le meilleur patineur pour l'instant. Du concours, donc c'était évident que ce serait lui qui restait, et Chloé Morteau en a fait les frais.
Oui, puis un beau torse comme ça, il ne faut pas s'en séparer. Hein.
Ouais, mais bon, enfin bon, une Miss France, c'est quand même pas mal aussi. Hein. Après, tout le monde n'est pas forcément intéressé par un beau torse. Hein. Après,
ah bon
eh ben non, mais non. Donc voilà, en fait, en lançant ce concours de patinage, les producteurs et M6 ont voulu que les juges soient dans des véritables compétitions professionnelles. C'est-à-dire, vous savez, ces notes avec des points là sur 6, donc 5.6, voilà, et qu'il n'y ait surtout pas de commentaires des juges. Et voilà. Et donc les juges sont priés de garder le silence. Bon, la production leur a quand même prévu un micro pour s'ils avaient à donner des explications, mais ces deux derniers mercredis, ils n'ont pas eu un mot à dire. Et pourtant, bah, c'est quand même trois personnes d'intérêt, enfin, qui ont une certaine renommée, Isabelle Delobel, Stanick Janet et Romain Hagenauer, qui ont expliqué aux Parisiens aujourd'hui en France qu'ils auraient bien aimé s'expliquer sur les notes qu'ils ont données. Et donc, le trio de juges déclare avoir été un peu frustré et on aurait même montré qu'on a de la répartie, regrette Stanick Janet, le double champion de France. De son côté, Romain Hagenauer avoue avoir été gentil avec les célébrités. J'ai été clément dans mes notations. Dans la vraie vie, aucun n'aurait eu plus de 3 sur 6. Explique celui qui dit avoir été agréablement surpris, notamment par Florent Torres, Merwan Rim et Clara Morgan. Isabelle Delobel, elle, confie s'être fixée une note minimale. Nous avons décidé de ne pas noter les candidats en dessous de 4 pour ne pas leur porter préjudice. Ce ne sont pas des pros, ça ne servait à rien de les noter trop sévèrement, juge-t-elle. Florence Duhaillot, directrice générale de Studio 89, au lendemain de la première de Ice Show, avait expliqué à PureMedia.com, dans une compétition de patinage, les juges donnent leurs notes sans contestation possible, ils ne disent rien. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'on va réussir à le faire passer dans les codes de l'émission. Donc a priori, on n'entendra pas vraiment les juges, au moins dans la partie du show. Je pense qu'on les entendra peut-être dans l'after show, mais pas dans le show pour les prochaines émissions.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment effacés. Oui. Ça fait bizarre, quoi.
C'est effectivement un peu surprenant, mais ça fait pas forcément de mal de pas entendre toujours de faire un peu mariner le truc en réécoutant, en reprenant l'avis des gens. Enfin, je trouve que finalement, on n'y perd pas. Enfin, je veux dire, il y a une sanction, une note. Il n'y a pas besoin de l'expliquer pendant 3 quarts d'heure non plus. Déjà que l'émission est longue, voilà.
Bon, et elle marche cette émission ? Est-ce qu'à part vous deux, il y a d'autres gens qui regardent ?
Alors, la soirée de lancement a été suivie par 3 millions de téléspectateurs, 16% du public. Donc entre 21h et minuit, puisque l'émission a duré à peu près ça. Si l'émission a été globalement bien accueillie, certaines critiques ont été faites sur les réseaux sociaux, notamment donc justement sur cette question de longueur de l'émission.
Mais c'est très long, quoi.
C'est très très long, mais ça rejoint ces longues émissions de Top Chef. Rappelez-vous, on en avait parlé à l'époque.
Oui, oui, oui.
C'est une stratégie normalement pour capter des téléspectateurs en deuxième partie de soirée. Mmh. À l'issue de la première partie, pour les gens qui vont venir voir la finale et voir qui va être éliminé. Et comme il n'y a pas vraiment d'effet final dans la compétition, je pense que ça accroche un petit peu moins sur cette cible-là. Alors, la correction a quand même été faite pour l'émission d'hier, qui était plus courte de 30 bonnes minutes, puisque ça a fini à 23h20 à peu près. Donc, voilà. Et donc, sachant que l'émission est suivie de 3 quarts d'heure de débrief avec des bêtisiers, la vie dans les équipes, donc ça s'appelle l'Ice After Show, et toujours présenté par Stéphane Rothenberg qui enchaîne directement après l'émission.
Le bêtisier de gens sur des patins sur de la glace, je pense qu'effectivement.
Ah oui, ça marche très bien.
C'est facile, ça.
Ça marche très très bien. Maintenant, il y a plein d'autres choses sur. La façon dont ils se préparent, sur comment ils répètent, comment ils vivent entre eux.
Enfin, les blagues de Candeloro.
C'est la partie un peu.
Les réparties de Richard Virenque.
C'est la partie un petit peu plus télé-réalité, entre guillemets, du show. Voilà. Alors, par contre, pour la deuxième soirée, donc hier soir, l'émission a attiré 2,9 millions de téléspectateurs en moyenne jusqu'à 23h20. Donc. Les parts de marché atteignent 13% sur les 4 ans et plus et 15% sur les ménagères de moins de 50 ans. Malgré donc des efforts pour améliorer le rythme de l'émission et raccourcir la durée, le programme a perdu 460 000 téléspectateurs et 3 points de part d'audience par rapport à son lancement donc la semaine dernière.
Il n'y avait pas Clara Morgan, donc déjà.
Voilà,
il y en a déjà. Les hommes intéressés, mais qui n'ont pas regardé.
Alors, ces mauvais chiffres n'ont pas dû plaire du tout à M6, pour qui cette émission a un coût très élevé. 700 000 euros par prime.
Wow.
Et c'est en dehors des standards de la chaîne. Mais c'est vrai qu'on retrouve aussi cet argent dans le programme qui est vraiment bien produit. Et voilà, le M6 a aussi su s'entourer des producteurs d'Holiday on Ice, notamment pour justement mettre en scène ce show. Et c'est quand même assez réussi. Ils ont conseillé les coachs, notamment pour proposer des numéros sur glace adaptés aux personnalités et éviter au maximum les mauvaises surprises.
Bon, mais moi, quand j'ai regardé l'émission, j'étais quand même pas très bien sur mon canapé. À chaque fois, j'avais peur pour les célébrités qui n'ont pas l'habitude de patiner. C'est vrai que c'est quand même dangereux de patiner sur la glace. On peut se faire mal très vite, quoi.
Oui, on l'a vu hier, notamment avec le problème de cheville de Norbert. Mais on a découvert un peu à cette occasion l'énorme dispositif médical qu'a mis en place M6. Ils ont tout prévu et selon le Parisien, il y a un kiné, des pompiers, 6 urgentistes, une ambulance qui sont mobilisés en cas de chute de l'un des candidats sur le plateau. En cas de gadin trop grave, la chaîne a dressé une liste des personnalités qui pourraient remplacer les blessés. Bon, il n'y aura pas de chute mortelle, enfin je ne pense pas, avait déclaré Philippe Candeloro lors de la présentation du programme à la presse.
Finalement, il fait des blagues.
Ils ne nous ont pas contactés, nous, en tout cas, bon, non. Parce qu'on n'est pas des célébrités. Mais
monsieur une célébrité.
Le vice-champion du monde ne croyait pas si bien dire. D'importantes assurances ont été contractées par la chaîne et elles prennent en compte toutes les éventualités, même le décès. Et ces assurances sont souvent souscrites quand même pour les programmes à risque de type Splash, Pékin Express ou encore Koh-Lanta.
Bon alors, verdict, tu aimes ou pas cette émission?
Eh bien, d'abord, un grand respect pour les célébrités qui donnent vraiment de leur personne et on voit l'effort qu'il y a derrière.
Et le chèque, il est de combien, le montant?
Sur les 700 000, il y en a un petit peu pour eux, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si énorme que ça. On voit quand même qu'ils bossent, et ça, c'est pas mal, et ils se débrouillent aussi quand même pas si mal. On voit déjà la progression entre la première et la deuxième émission. Bon, comparé à moi qui ai déjà eu du mal à faire des tours de patinoire,
c'est rien pour ça qu'on ne t'a pas demandé à toi non plus.
Chapeau.
Et ça, moi, ça m'a donné envie d'en refaire. Moi, j'adore ça, je suis nulle.
Tu peux
ça.
Faire sur la place au blé.
Oui, non, en ce moment.
Je suis aussi, je suis assez agréablement surpris par la qualité artistique du programme. Alors, avec un choix de chansons éclectiques, on pourrait d'ailleurs faire la programmation, hein, parce que ça va de Stromae à Poupée de cire, Poupée de son, donc je pense qu'on est pas si mal. Assez bien quand même transformé en chorégraphie, hein, on a quand même des gens qui ont fait ça, c'est leur profession, donc c'est vraiment assez sympa. Et puis, je trouve que vraiment le travail vidéo et le fait de pouvoir se servir de la glace et puis d'un immense écran en fond de patinoire, pour justement mettre dans l'ambiance, c'est assez réussi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. C'est-à-dire que finalement, on ne voit pas une patinoire blanche sur laquelle ils font du patin. On voit quelque chose qui peut être avec toute une ambiance finalement qui est créée sur le studio. Et c'est un vrai show de télévision. Et ça, c'est quand même. Je pense que c'est vraiment assez intéressant. Alors après, moi j'étais un peu chaudé par Splash dans l'aspect un peu très compétitif du truc. J'ai jamais très accroché non plus à Danse avec les Stars, mais ça m'intéressait plutôt moyennement de regarder ce programme. Et puis finalement, je me suis rabattu sur cette émission parce que il y avait pas forcément grand chose la semaine dernière en face. Et puis finalement, j'ai pas regretté d'avoir regardé cette première émission. Et je pense que je pense que je vais suivre jusqu'au bout ce programme. Voilà. Et toi, peut-être Anne-Marie, est-ce que ça t'a donné envie de continuer à regarder ou pas ?
C'est vrai que c'est très joli, mais encore une fois, j'ai tellement peur pour eux que je savoure pas assez.
Ça te stresse trop.
Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, je suis vraiment stressée parce qu'il y a quand même des portées qui sont dangereux. Moi, j'ai toujours peur qu'ils s'explosent la tête contre la glace, quoi.
Ça, c'est ton côté gentil. Moi, vous me donnez envie de regarder juste pour attendre qu'ils tombent. Attends, non, c'est quand même trop rigolo. Les chutes, il n'y a rien de plus drôle. C'est vidéo gag version.
Ouais, mais bon, quand même. Pourquoi pas. Mais honnêtement, s'il y a quelque chose d'autre à la place, comme hier soir, il y avait des Racines et des Ailes. D'ailleurs, je crois qu'ils sont arrivés avec cette émission, la France 3 est arrivée sur la deuxième marche du podium. C'est vrai que je préférais passer plutôt une soirée devant cette émission plutôt que devant Edge.
Ouais, tu préfères Patrick de Carolis à Stéphane Rottenberg.
Ah, tellement plus sexy.
Il n'y a pas photo, oui.
Et tu nous proposes d'écouter quelle chanson?
Les Patineurs de Clarica. Des cœurs pour les patins. entendu.
Elle.
Et lui. Et on se retrouve en direct pour la troisième partie d'Actuel et lui. Et c'est Aurélie qui est aux commandes pour nous parler de cinéma.
Et oui, pour ma chronique d'aujourd'hui, j'avais tout d'abord prévu de vous parler littérature et cuisine, puisque nous sommes en pleine semaine de Aime lire, et que la semaine dernière, Guillaume, tu m'interrogeais sur d'autres lectures sur ce thème. Mais quand je vous en ai parlé, encore a été votre réponse.
Ah, pas la mienne.
Non, pas la tienne, c'est vrai.
Non, non.
Quand j'en ai parlé à Ludo et Guillaume, intéressé. Je vais balancer. Ils m'ont dit, ah, encore. Voilà. Donc, je garde cette proposition pour notre émission de samedi,
voilà,
où je pourrais donc ressortir les bouquins dont je voulais vous parler. C'est et ça. Puis, je suis sûre que nous inviter...
On te donne 1h30 pour en parler
exactement.
Samedi.
Exactement. Et du coup, et je pense que nos invités, en plus, vont nous donner d'autres idées. Donc, j'ai
soyez
décidé...
Soyez au rendez-vous.
Soyez au rendez-vous samedi matin,
10h.
Voilà.
Mais vous ne nous dites pas de quoi. Donc, c'est du direct, ça
ce sera du direct, en direct de Aime lire.
Voilà. On l'a tellement dit.
Oui, mais c'est voilà. Peut-être bon aussi on de faire des piqûres de rappel. Voilà. Hein,
tout à fait,
c'est gratuit.
Tout à fait, tout à fait.
Hein.
C'est on invite nos invités. Voilà. Et donc, j'ai changé d'avis. Et lundi soir, au ciné, j'ai été voir Les Garçons et Guillaume à table.
Alors, tu nous racontes un petit peu cette histoire, quand même.
Alors, Les Garçons et Guillaume à table, c'est donc un film où Guillaume Gallienne tient à la fois le rôle du fils efféminé et de sa mère qui désirait une fille. Voilà pour le pitch. Et je vais laisser la parole à l'auteur et interprète qui dit « Le premier souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand j'avais 4 ou 5 ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant « Les garçons et Guillaume à table ». Et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant « Je t'embrasse ma chérie ». Eh bien, disons qu'entre ces deux phrases, il y a eu quelques malentendus. Donc effectivement, c'est le grand succès en ce moment, quoi, avec au premier mercredi de sa sortie, le meilleur démarrage de l'année pour un film français. Et le 7e meilleur démarrage de
tous les temps.
Voilà, en France. En seulement 12 jours, la comédie de Guillaume Gallienne a dépassé dimanche matin le million de spectateurs. Un immense succès et assez inattendu pour un film d'auteur.
Oui, alors comment on s'explique un tel succès et un succès si rapide en salle ?
Alors, tout d'abord, en fait, c'est le bouche à oreille depuis Cannes. Tout avait commencé à Cannes avec une standing ovation. Mais pris par le film qu'il a tourné de Jalil Lesper, Yves Saint-Laurent, et puis la comédie française dont il est sociétaire, Guillaume Gallienne avait fixé la sortie qu'à l'automne. Donc 6 mois d'attente que Gaumont, son distributeur, a mis à profit pour, je cite, montrer le film à d'autres publics. Et du coup, le bouche à oreille va pouvoir fonctionner. Le film est acclamé au Festival d'Angoulême fin août, à Deauville début septembre. Et à partir de là, donc là je le cite à nouveau, on se dit qu'il peut y avoir un succès populaire et dépasser son premier cercle de spectateurs, donc toujours d'après Gaumont. Et la veille de sa sortie, effectivement, le 20 novembre, il y avait plus de 15 000 personnes qui l'avaient déjà vu. Donc ils ont chacun aimé et chacun l'a recommandé à d'autres, ce qui fait qu'il y a eu comme ça un vrai bouche à oreille.
Il y a eu le bouche à oreille, mais il y a eu aussi donc le soutien de la presse.
Une campagne média impressionnante.
Voilà. Tous les jours, on voyait quand même Guillaume sur un plateau télé où on l'écoutait à la radio. C'est vrai qu'il était très, très présent quand même.
Oui, oui, effectivement, la critique est charmée. En fait, il n'y a que les Cahiers du cinéma et Le Monde qui l'ont un peu snobé. Et bon, Télérama, pour faire bonne mesure, qui avait un avis partagé. En fait... Bon, voilà, il y a surtout un concert de louanges. Alors, en langage allociné, c'est 3,9 étoiles sur 5, avec drôlissime, virtuose, réjouissant, jubilatoire, comme descriptifs qui ont été accolés. Tous ces superlatifs, donc ceux qu'on a retrouvés dans la presse, ont été rajoutés sur l'affiche et dans la bande-annonce. Certains ont entendu Guillaume aussi sur France Inter. Vous savez peut-être que Guillaume Gallienne, en fait, a une émission sur France Inter récurrente le dimanche après-midi, si je me souviens bien, qui s'appelle « Ça peut pas faire de mal ». Et en fait, il présente à chaque émission un classique de la littérature. Donc, je sais pas, Les Trois Mousquetaires, voilà. Il lit des extraits. De façon à ce qu'on comprenne l'histoire, il raconte l'histoire. Et comme il a une voix tellement particulière, c'est vrai qu'il a une vraie voix de radio, c'est assez intéressant. Mais donc, je reprends. Donc, certains ont entendu Guillaume sur France Inter, mais peu connaissaient son visage. Donc, sur l'affiche, il fallait bien qu'on donne des clés, qu'on rassure, justifie Gaumont justement pour l'utilisation de tous ces superlatifs. justement, pour toucher un public plus large que celui qui consomme du ciné un peu haut de gamme. Et question promo, effectivement, Guillaume Gallienne a conquis les journaux, les magazines, son côté sympathique, bien élevé. Il a obtenu en fait des portraits assez fouillés, des longues interviews tout au long des magazines.
Alors, c'est une comédie intelligente.
Et oui, il est donc... Je vais vous citer le co-auteur de l'ouvrage qui s'appelle « Les comédies à la française », donc un spécialiste de cinéma, Jérémy Humbert, qui explique qu'il va marquer durablement l'histoire du cinéma français. C'est un film, donc, je le cite à nouveau, qui est très bien écrit, et contrairement au Dîner de cons ou au Prénom, qui ont cartonné par leur dialogue, la mise en scène est ici extrêmement soignée. C'est un vrai film de cinéma, d'où l'unanimité de la critique. Et selon le spécialiste, je cite à nouveau, les comédies où l'on rit, mais de façon intelligente, se comptent sur les doigts d'une main. Bim, hein, vous voyez quand même. Bon, il est assez sévère. Et au milieu, en fait, du public assez hilar à Cannes, il raconte cette dit, si ça marche ici, avec ce public pas très joyeux et réputé anti-comédie, le succès doit être assuré.
C'est un humour de sketch.
Alors oui, effectivement, la mise en scène est un peu particulière. Et ça tient aussi au fait qu'on part d'une pièce de théâtre. À l'origine, hein, en 2008, quand il a monté cette pièce, donc, il jouait tous les rôles devant un rideau noir. Ce qui fait que certaines scènes ont l'air parfois de sketch mis un peu bout à bout. Donc, par exemple, alors, évidemment, comme vous n'avez pas vu le film, c'est un peu... Je ne veux pas dévoiler le mystère, mais disons que pour ceux qui auront été le voir, et d'ailleurs vous pouvez le voir à Mende encore pendant 3 semaines, je le dis, au cinéma, donc faut pas hésiter. Donc certaines scènes comme celle du spa, des tests pour l'armée, chez son psy, ou celle de la princesse Sissi, le film repose sur un humour un peu particulier, avec ces petits moments vraiment hilarants posés les uns à côté des autres. Pour moi, c'était un petit peu ce qui pouvait déplaire aussi, parce que si le ressort comique du déguisement, alors vous imaginez, pour vous donner l'image, Guillaume Gallienne en princesse Sissi tout de suite, grande robe, archiduchesse Sophie, tout ça, ouhou. Et c'est vrai que c'est toujours efficace, on le retrouve de la comédia dell'arte jusqu'à De Funès, mais ça peut parfois être un peu artificiel aussi, donc c'est parfois un peu... délicat.
Alors aujourd'hui, Guillaume est marié, je crois, mais il a été question quand même souvent d'identité sexuelle. Il s'est quand même beaucoup cherché. Il en parle, je pense, dans ce film.
Ah oui, oui, c'est vraiment ça. En fait, on pourrait résumer ça par c'est l'histoire d'un homme qui doit assumer son hétérosexualité dans une famille qui a décrété qu'il était homosexuel. Donc, c'est pas forcément, pas forcément banal, effectivement. Ça fait rire, ça... On est aussi ému. Il met le doigt sur quelque chose d'universel, en fait, la quête d'identité. Alors là, en l'occurrence, c'est d'identité sexuelle, mais finalement, on se rend compte que c'est d'identité tout court. Et du coup, voilà, ça devient universel. Quoi.
Et d'ailleurs, je disais, il est marié aujourd'hui. Oui, enfin, il faut que je précise. Maintenant, il est marié à une femme. Voilà.
Effectivement,
la précision est quand même importante.
Puisque
à donner.
Effectivement, on attendait un peu un effet mariage pour tous. Hein. Il y a eu L'Inconnu du Lac il y a quelques temps, La Vie d'Adèle, des mois de débats très vifs sur le mariage pour tous. Alors, le film semble arriver au bon moment, entre guillemets, et on peut dire un peu que c'est le propre de toutes les comédies qui cartonnent. Pourtant, il ne peut pas être vraiment taxé d'opportunisme, car son histoire, il a écrit pour le théâtre début 2008. Donc, on n'était pas du tout, là-dedans. Donc, c'est en fait là un peu la clé. Sociétaire de la comédie française, il n'a jamais tenu vraiment de grands rôles. Le public le connaît mal, même si, en fait, maintenant, peut-être que son visage sera plus connu, on va dire, ah bah oui, c'était aussi Joli Thorax dans Astérix. C'est dur là, il y a trop de X.
Joli Thorax que pourrait tout à fait être Florent Torres, hein, dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà.
Non mais c'est tout, hein, c'est tout. Voilà, c'est une...
Mais peut-être...
Ouh là là.
Par contre, on peut peut-être regretter que dans cette comédie, les personnages soient aussi caricaturaux.
Oui, donc je continue sur mon idée du mariage pour tous et on oublie Joli Thorax, merci. Donc effectivement, ces personnages sont parfois un peu caricaturaux, c'est ce qu'on pourrait reprocher. En fait, on a un univers gay dans ce film qui est un peu dépeint comme le le septième cercle de l'enfer.
Il y a du mal, Aurélie, aujourd'hui.
Voilà, en fait, il faut que j'articule plus. Donc, face à un univers gay dépeint comme le septième cercle de l'enfer, les seuls représentants qu'on voit dans le film, en fait, sont trois Arabes de banlieue agressifs, adeptes des gangbangs, et enfin, un étalon obsédé par la propreté et une musculature... et sa musculature vraiment très saillante. La femme, elle, alors là, petite musique angélique, révélatrice de l'hétérosexualité, est filmée comme une sorte d'ange salvateur qui vient libérer notre héros de ses abjects tourments. Vous voyez, c'est un peu... il y va là, peut-être un peu à la truelle, quand même. Hein. Bon, le film est assez drôle, touchant, pas toujours subtil dans ses personnages. Le père, par exemple, il ne voit la virilité qu'à travers le foot et l'aviron. Les frères, qui sont homophobes, se moquent de Guillaume, voire lui tapent un peu dessus. Les filles de la pension regardent les garçons nager en bavant devant leurs muscles. Bah, les choses ne changent pas, finalement. Les psys s'endorment et les Anglais sont si déjantés et si libres par rapport aux Français. Voilà, on est vraiment dans la grosse caricature.
Mais c'est quand même un film émouvant et plein d'espoir.
Oui, parce qu'en fait, ce film peut aussi être lu de façon progressiste, comme le refus des cases. Il rappelle que les carcans dans lesquels on enferme les garçons comme les filles sont étouffants, que la norme est excluante et prouve enfin qu'elle est mouvante. Il y a quelque chose de totalement universel aussi dans la relation de ce fils avec sa mère. Et de ce fait, on est forcément touché. On a tous une mère, peu importe qu'on soit un garçon ou une fille, qu'on s'entende avec elle ou pas, et que la figure maternelle soit modèle ou repoussoir. Ce film rappelle aussi que cette relation nous façonne.
Donc pour toi, la relation avec sa mère est donc le pivot de ce film.
Ah oui, c'est vraiment, le personnage de la mère est vraiment incontournable. D'ailleurs, il est vraiment formidable là-dedans. Il est joué donc par Guillaume Gallienne lui-même. Il réalise vraiment un exploit. Il a su trouver les attitudes, l'allure. Voilà, je connais pas sa mère, mais je pense qu'il a vraiment réussi à la croquer de façon très pertinente. Parfois, elle est horrible, hein, des fois. Moi, je me dis, mais on le verrait hors contexte. On se demande même s'il est... Enfin, c'est presque de la maltraitance, quoi. Hein,
D'ailleurs, il avait tenu à jouer le rôle de sa mère. Il voulait pas que ce soit une comédienne qui joue.
Oui, mais justement, parce qu'il y a entre eux un espèce d'amour un peu fou, exceptionnel, dysfonctionnel, ça c'est sûr. Mais en tout cas, qui est immense, quoi. On peut pas toujours aimer, on peut pas toujours aimer ses proches comme il faudrait ou comme voilà. Hein, on prend tout le bon et le mauvais ensemble. Et là, c'est vraiment.
Et on choisit pas sa famille. Hein.
Ah ben non, c'est sûr. Et puis on est parfois maladroit et voilà. Mais c'est en tout cas un amour exceptionnel. Et d'ailleurs, lui, quand il la joue, il apporte vraiment beaucoup. Et au point que, si vous voulez bien, je vais me permettre un petit conseil aux différentes académies, et notamment au César. C'est le prix du premier rôle féminin qu'il devrait vraiment obtenir pour cette mère. Et tant pis pour les filles qui jouent des filles, quoi.
Ouais, ça serait marrant, effectivement, que les Césars...
Et ce serait gonflé et ça, voilà, ça repousserait justement cette idée de genre...
À noter que ce sera d'ailleurs Cécile de France qui sera la maîtresse de cérémonie des Césars.
Voilà, petite info télé.
Petite info télé, voilà.
Alors, pour aller justement avec toutes ces histoires de filles, et puis pour Ludo, qui aime toujours beaucoup mes choix musicaux, je vais vous proposer, puisqu'à la fin de la BO de Guillaume, il y a une reprise de « Vous les femmes » par Arnaud. Alors moi, je n'ai pas trouvé par Arnaud, mais j'ai découvert que, attention, Johnny avait fait une reprise de « Vous les femmes ».
Charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître, on vous dit toujours. drame, vous mon drame, puis vous si douce, vous la source de nos larmes, pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Vos sourires nous attirent et nous désarment. Pauvre diable, et nous sommes, oui, vulnérables, misérables, nous les hommes.
Lui. Et voilà, c'est la fin de cette émission d'Actuel et lui. On était en direct, on était contents d'être en direct.
Voilà.
Et bah merci à tous et puis à bientôt.
Oui. Merci de nous avoir écoutés, puis à très bientôt.
À très bientôt, ce sera la dernière émission avant Noël, donc on va faire peut-être
une spéciale Noël.
Peut-être, on ne sait pas.
Avec des chroniques de lutins. Le Père Noël.
Bon, mais on verra ça dans une
quinzaine. Ce sera une surprise.
Dans 15 jours, rendez-vous toujours. Donc, effectivement, Anne-Marie l'a redit tout à l'heure. La rediffusion, c'est le mardi à 18h11 et le jeudi à 12h30. Merci à tous et à très bientôt sur 48FM. Rendez-vous aussi samedi en direct de l'Antirouille pour l'émission spéciale Aime lire. À bientôt.
À bientôt.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle.
Elle.
Et lui.
Elle.
Lui. D'actuel.
Et lui.